point de mire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, nous retrouvons aujourd'hui Henri Amouroux, président du jury du prix Albert Londres, avec lequel nous évoquons le métier de journaliste, non seulement le prix lui-même, dont vous allez nous expliquer comment il fonctionne, monsieur Amouroux, mais aussi l'éthique du reportage et du grand reportage.
C'était cette année le 66e prix.
66e
prix,
il
a été interrompu pendant la guerre.
C'est vous qui, depuis 20 ans, vous en occupez.
Oui,
alors,
pas.
J'aimerais comprendre comment vous regardez les dossiers. Alors, il y a deux prix, un pour la presse écrite, un pour l'audiovisuel.
Il y a un prix de l'écrit et un prix de l'audiovisuel. Le prix de l'écrit est un prix qui existe depuis 66 ans, enfin un peu plus puisqu'il y a eu des années de guerre, mais pendant les années de guerre, il n'a pas été décerné, de guerre et d'occupation. Et un prix d'audiovisuel depuis 1985, donc il est beaucoup plus jeune. Et c'est très intéressant à travers les dossiers que nous recevons de voir comment la balance, les plateaux de la balance se sont inversés. Bon, en 85, 86, 87, n'est-ce pas, il y avait deux prix, le prix de l'audiovisuel, le prix écrit, le prix de l'audiovisuel. La balance la plus chargée, c'était celle de l'écrit. Et aujourd'hui, c'est celle de l'audiovisuel qui est la plus chargée. Nous avons vu s'inverser le rapport des forces. C'est tout à fait indicatif, d'ailleurs. Alors, nous faisons un appel à candidature, qui est affiché dans toutes les rédactions, qui est publié par tous les journaux professionnels. Il y a un mois et demi avant le prix, si vous voulez, nous faisons un appel à candidature en disant voilà les conditions, voilà qu'il faut adresser les dossiers, et les dossiers doivent être rédigés, enfin, la candidature, d'hommes et de femmes, naturellement. Il y a de nombreux journalistes femmes, d'hommes et de femmes de moins de 40 ans.
Moins de 40 ans.
Vous avez une limite d'âge. On en a beaucoup discuté, on en a discuté des tas de fois, mais finalement on est resté autour de 40 ans. C'est normalement fait pour récompenser un journaliste relativement...
Qui a 10-15 ans de métier, parce qu'on n'est pas grand reporter avant 25-28 ans tout de même.
Et alors, les dossiers, nous recevons les dossiers. Les dossiers de l'écrit, tout le monde les reçoit. C'est-à-dire que nous recevons une pile, parce que chaque candidat nous envoie tout ce qu'il a fait dans l'année.
Il ne fait pas un choix de son meilleur article à son point de vue, non. Il envoie tous ses reportages.
Nous recevons, si ce n'est pas convenable si je parle en grammes, mais nous recevons 30, 40, 50 articles, 60 articles. Bon, ça fait dans l'année, il y en a qui en ont fait beaucoup, énormément.
Et c'est un temps fou pour relire tout cela.
Naturellement. Alors, nous recevons tout ça, un gros dossier, vraiment un gros dossier, qui est envoyé par les soins de l'administration du prix. Il y a plusieurs années de cela, vers 86-87, l'administration a été confiée à la société, à la SCAM, la Société des auteurs multimédia. Et il y a là un homme jeune, mais remarquable, qui est à la SCAM d'ailleurs, que la SCAM a eu la gentillesse de déléguer auprès de nous, qui s'appelle Stéphane Joseph, et qui est quelqu'un d'absolument remarquable. S'il n'était pas là, je ne pourrais pas du tout faire ce que je fais. Pas du tout.
Donc il reçoit les dossiers, il les organise.
Oui, mais il fait beaucoup plus dans les histoires de nos voyages. Je travaille avec Stéphane Joseph, mais je fais ma partie qui est aussi de représentation, bien sûr. Quelquefois d'ouvrir des portes.
Bien sûr.
Mais il m'aide énormément. Et puis je fais aussi des discours, je vais en faire en Chine. J'en ai fait en Chine, tout au moins. Bon, mais il est là indispensable et très efficace. Et surtout, c'est un homme avec lequel je m'entends remarquablement bien, ce qui est très précieux, très précieux. Alors, l'administration du prix envoie tous les membres du jury tout ce qui concerne l'écrit, et en ce qui concerne l'audiovisuel, nous avons une journée entière de... Non, en ce qui concerne l'audiovisuel, chacun de nous reçoit cinq films, qu'il doit visionner.
Mais est-ce que c'est cinq films par reporter?
Non, attendez. Nous recevons une vingtaine de prix de lauréats, de dossiers pour l'écrit. Mm-hmm. Nous recevons au minimum 35 cassettes pour l'audiovisuel.
Ah oui?
Oui, voilà. 20, 35 ou 40. Cette année, c'était 40. Bien. Chacun de nous va recevoir 5 cassettes qu'il doit visionner. Mais j'ai reçu, par exemple, 5 à 7, un autre confrère reçoit les mêmes 5 à 7. Pour qu'il n'y ait pas que mon sentiment qui compte, mm-hmm. je le confronte avec celui d'un confrère. Et nous faisons ça comme ça. Une fois que nous avons fait cela, nous avons vu 5 à 7, donc chacun, bon, il y a 5 fois, bon, et puis 40 divisé par 5. Et nous faisons une journée de présélection. Nous nous réunissons à avenue Velasquez à la SCAM, et nous nous réunissons à 9h, et nous finissons quand nous avons fini. Nous déjeunons sur place, et nous dînons sur place, avec des plateaux repas modestes, dans leur composition et dans leur goût.
Et vous visionnez
et
tous
nous visionnons
films.
Les
tous non, ensemble,
non,
alors,
nous
là,
nous visionnons ceux qui ont été retenus
par les saints. Voilà, d'accord.
Par exemple, j'ai reçu 5 films, j'en ai sélectionné un, on va le voir.
D'accord.
Et puis d'autres confrères en ont sélectionné 2, on va les voir. Et après, nous faisons une sélection de 5. Mm-hmm. Il reste 5 ou 6. 5 ou 6, et à ce moment-là, avec les 5 ou 6, nous envoyons les 5 ou 6 à tous les membres du jury, qui sont priés de les visionner tous. Là, nous en avions, pour le dernier prix Albert Londres, nous en avions 2, 3, 4, 5, 6. Nous en avions 6. C'est celui de Ritipan sur le Cambodge, sur le génocide oui. cambodgien, qui s'appelle S21. C'est un très grand documentaliste, il y a eu un grand débat là-dessus. Plus que grand reporter, enfin c'est un film très très bon sur la machine de mort des Khmer Rouges, c'est pas ? C'est un très très bon, très émouvant document. Nous lui avons donné le prix. Moi je défendais une thèse qui disait que c'était un film de metteurs en scène, beaucoup plus que de journalistes, si vous voulez.
Oui, bien sûr. Il y avait beaucoup de montage,
il y avait un jeu même des anciens. Il avait fait venir des geôliers qui rejouaient le rôle de geôlier. Oui. Il avait fait venir une victime qui rejouait son rôle de victime.
Bon. C'était à la limite du reportage.
Ça, c'était pas, à mon avis.
Enfin,
le débat était
le
sur,
sujet
là-dessus.
Était intéressant.
Je n'ai pas été suivi. Bon. Moi, je votais pour un film d'une jeune femme que je ne connais pas, qui s'appelle Manon Loiseau, qui avait fait un film de 26 minutes, qui s'appelle Naître à Grosny, et qui était très très bon. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y avait, pour vous dire, sur les 6 films, il y en avait un qui avait été diffusé par France 5. Arte, France 2, Arte, France 3 et France 3. Voilà,
ça veut dire que le prix n'a pas du tout de critères politiques, d'orientation, il choisit sur la qualité du reportage.
Aucune, qu'il s'agisse de l'écrit ou de l'audiovisuel, ça dure longtemps. Notre dernière réunion pour voter pour le prix 2004, nous avons commencé à 7h, nous avons fini à 9h. On discute, à un moment donné, est-ce que vraiment tout le monde a pris la parole. Je ne veux pas être accusé d'être dictateur. Bon. J'ai un peu tendance à croire, enfin, si j'interromps trop vite la séance. À Courchevel, j'en avais assez, ça s'éternisait. J'ai tapé sur la table, j'ai dit, ça suffit, on arrête. Hein. Alors il y en a qui me l'ont reproché. Ça faisait 1h30 ou 2h qu'on débattait en rond, toujours sur le même sujet.
Le président alors, préside.
Oui,
voilà.
Le président préside. Et alors, bon... Et alors l'écrit, puisqu'il faut que... Donc ce Cambodgien, quand c'est un Cambodgien qui a eu le prix, c'est un prix francophone, nous l'avons donné il y a quelques années à un Suisse, et alors en ce qui concerne l'écrit, c'est un de nos confrères Libération, qui s'appelle Ayad, qui a fait un très très... deux très bons reportages sur le Rwanda, sur l'Irak, de remarquables portraits dans Libération. Et c'est lui qui a eu le prix au premier tour d'ailleurs. Il fallait 10 voix, il a eu 10 voix, il a eu le prix au premier tour. C'est un très très bon journaliste et il s'appelle Christophe Ayad. Je lui ai téléphoné pour le féliciter tout de suite, il était très heureux. Ceux qui ont le prix sont très heureux, très heureux.
Certainement.
Lorsque nous avons donné le prix en Guyane, généralement, ils ne savent pas qu'ils ont le prix. On leur annonce depuis, non, on leur annonçait depuis le Guyane, on leur annonçait depuis le Tour de France, on leur annonçait depuis Reims, depuis Moscou. Ils prennent un avion, ils se débrouillent pour venir.
Amouroux, je voudrais vous poser une question. Vous qui visualisez et qui lisez donc les meilleurs reportages de la presse française et francophone, quelle impression avez-vous globalement? Est-ce que la qualité est excellente? Est-ce qu'il y a...
La qualité...
Est-ce qu'elle pourrait être meilleure?
Oui, la qualité est généralement bonne. Tous ceux qui sont candidats, je vous jure, ont des dossiers très très remarquables. Je sais bien que l'Académie des sciences morales a l'honneur de faire partie. On n'a pas une passion folle pour le journalisme et les journalistes. Mais tous les journalistes qui sont là sont des hommes et des femmes qui ont fait des études longues souvent. À mon avis, cela ne suffit pas tout à fait à donner ce que j'appellerais le talent personnel. La moyenne est très bonne, très très bonne. Ils arrivent obligatoirement, parce qu'il y a un élément nouveau. On parle d'Albert Londres. Je vous ai dit, dans une précédente émission, il y a quelques jours, je vous ai dit qu'il partait pour 6 mois. Là, quand on part pour 6 jours, c'est une bénédiction du ciel. C'est tout juste si on ne part pas pour 6 heures, n'est-ce pas ?
Oui, c'est un critère qui a changé dans la presse, bien
oui,
sûr.
Oui, mais ça change tout. L'élastique qui vous envoie vous ramène, toc.
On n'en voit plus pour des mois. Non. Si encore quand même sur les fronts de guerre, les gens peuvent partir un mois, six semaines.
Un mois, 2 mois, oui, c'est tout cassé. Bon. Tout cassé, c'est le mot quelquefois. Parce que les journalistes prennent beaucoup de risques. Il y a beaucoup, beaucoup de morts.
Oui, il y a beaucoup de morts dans les
journalistes. Il y a beaucoup de morts pour
les
journalistes. Et notamment parmi les photographes, pour une raison très simple. Le photographe, il ne peut pas faire la photo depuis 10 kilomètres, des 100 kilomètres. Le journaliste peut écrire. En Indochine, moi, j'ai bien vu comment ça se passait. Il y avait trois catégories sur la distance, trois. Il y avait ceux qui prenaient tous les risques, j'en ai connu. Bon, ils se font tuer un jour ou l'autre, c'est évident. Bon, ils se font tuer. Bon, moi, j'étais moyen. J'en ai pris. Bon, j'ai été blessé 2 fois. J'ai pris, mais bon, je ne prenais pas non plus les risques. Moi, j'ai vu à Suez, Roy, qui était un match, n'est-ce pas? Je l'avais connu d'abord en Russie, Roy. Il était un match, je le retrouve. La veille, j'avais été dans le seul journaliste dans l'avion PC du colonel Grasseux qui commandait l'opération des parachutistes sur Suez. Et dans l'avion PC, on était resté 6 heures au-dessus de l'objectif. 6 heures, c'est long. C'est la dernière heure qui est longue. Bon, c'est la dernière heure, elle est longue. Parce qu'on a fait 1 heure de radio, et ça, c'est le radio est long, toujours. Et alors, le lendemain, nous revenons, nous atterrissons à Gamil, et... Je vois Roy, il avait pris une Jeep, il y en avait partout des Jeeps, on faire un stock de Jeeps et les vendre à Marseille, 2 mois après, on a fait fortune. Et donc, je vois, il avait mis le numéro de téléphone de masse sur la Jeep, puis il avait attaché un petit canon anti-char derrière, il y en avait aussi partout. Je lui dis, où vas-tu? Il avait un journaliste américain avec lui, je lui dis, où vas-tu? Eh bien, je lui dis, où vas-tu de ce pas? Je lui dis, où vas-tu? Il me dit, je vais rejoindre les lignes égyptiennes. Non, mais je lui dis, tu es du gain, dingue, tu vas te faire descendre. C'est bien évident. Il y avait les Français, les Anglais, les Égyptiens, puis après les Israéliens, l'ont du Canada. Je lui dis,
il est pris entre tous les tirs, évidemment.
Il se fait descendre, et l'Américain aussi. C'est évident, si vous faites ça.
Il ne faut pas être fou.
J'ai fait, je suis un journaliste, avoir fait un bombardement en piqué, d'être catapulté la Romanche, avoir fait un bombardement en piqué sur des positions vietmines. On prend des risques, évidemment. D'abord, l'avion n'a qu'une hélice comme moteur. Bon. Et puis vous êtes là, vous ne savez pas ce qui va se passer. Après tout, les Viettes, on a des CA, etc. On se dit, bon, on y va, on verra bien. Bon, on a peur avant la nuit qui précède, on se dit, tu es complètement idiot de faire ça. Et puis il y a ceux qui restent à 300 km de l'événement. Et en Indochine, comment vous êtes aussi renseignés que ceux qui sont sur place. Vous êtes mieux renseignés. Vous êtes à Saigon. Vous allez voir les parachutistes, vous êtes dans les bistrots, vous sont les parachutistes, vous allez voir la Légion,
Vous faites raconter l'histoire.
Naturellement, vous avez le bordel, les dancings, on appelait pudiquement les dancings, vous allez voir, très important, en Indochine, très important dans ce type de guerre, ancienne naturellement, ça a déjà 50 ans, vous allez voir les gens qui fabriquent, qui aménagent les parachutages, qui préparent les parachutages. Donc vous savez par eux où on va parachuter et ce qu'on va parachuter. Et la situation, ils parlent naturellement, et la situation du poste qui appelle, qui a besoin de parachutage. J'écrivais un article formidable. Vous voyez des gens qui reviennent d'opération, ils viennent d'un dégagement, ils viennent boire un coup d'un verre dans les bistrots.
Et vous n'aviez pas besoin d'être.
Mais vous n'êtes pas. Place. C'est un problème d'honneur personnel.
Oui.
Et être avec les gens, quoi. Y être, pas bidonner, pas fatalement se faire tuer, parce qu'on n'écrit pas un article, mais comme, y être. Alors, des gens admirables, comme Michel Derfer, lui, il s'est trouvé à Delmaine Fou, il était avec Perrault, et j'ai connu Perrault sur l'opération précédente avec Michel Derfer, d'ailleurs, qui s'appelait l'opération Atlante, dans le centre Vietnam, en Hanam, et Perrault était tué à Delmaine Fou. Il photographiait les Viettes, c'était un photographe extraordinaire. Il photographiait les Viettes qui passaient derrière les herbes à éléphants, qui sont un masque. Remarquez, ils passaient à 5 mètres, 10 mètres. Alors bon, là, vous prenez des risques.
Un jour, évidemment, le risque.
Ouais, le risque l'emporte, c'est normal. Il y a beaucoup de tués dans les journalistes. J'avais fait un jour une conférence à l'école de la guerre. Je n'ai pas été très bien vu parce que j'ai dit qu'il y avait davantage de journalistes tués que de généraux. Pas très bien apprécié. Enfin bon, c'est la vérité.
Thank you.